archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, bienvenue. La COP30 se poursuit à Belém, au Brésil, jusqu'à vendredi prochain. On verra alors si l'on doit se réjouir de ce grand rassemblement international qui a bien du mal à transformer ses bonnes intentions en actions concrètes pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Avec une priorité donnée à la lutte contre la désinformation et le climato-scepticisme qui recommence à gagner du terrain. Et en ligne de mire, le président des États-Unis, lui-même, qui déclare que le réchauffement climatique est une supercherie inventée par ceux qui veulent mettre à bas l'économie capitaliste. Ce qui est faux, on le sait, puisque la finance investit massivement dans l'innovation durable et en tire déjà de substantiels profits. Aujourd'hui, notre archive est consacrée aux forêts et au rôle important que jouent les arbres dans la limitation des émissions des gaz à effet de serre, qui, on le sait désormais, est le responsable de ce réchauffement du climat qui préoccupe, à juste titre, le monde entier. Les arbres captent le carbone, qui sans cela viendrait s'ajouter à celui qui s'échappe déjà par millions de tonnes dans l'atmosphère. Notre archive nous ramène en décembre 2000. Ce reportage de Fréquence Terre, émission environnementale produite pour RFI par Arnaud Jouve et son équipe, fait le point sur ce rôle essentiel que joue la forêt pour limiter la hausse des températures. On s'y plonge et on se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous, avec vous Ben Kramer pour ce Fréquence Terre sur la forêt contre l'effet de serre.
Jusqu'à preuve du contraire, une tonne de bois tropical contient à peu près 500 kg de carbone pur. Donc il est totalement incontestable que les forêts, en croissance, c'est un point très important, constituent des puits de carbone authentiques.
Les arbres, sous les zones tropicales, ils absorbent 400 tonnes de carbone par hectare sur une période de 40 ans. C'est ce qu'on démontre avec Peugeot.
À la conférence de La Haye sur les changements climatiques, il est beaucoup question de puits de carbone. Mais qu'est-ce que ces puits de carbone ou puits de CO2? Pour le commun des mortels, ce n'est pas évident. Confirmation avec le directeur général de l'ONF, l'Office national des forêts, Bernard Goury.
L'opinion publique aujourd'hui comprend assez bien le dérèglement climatique qui se produit, parce qu'on l'a vécu en France et on le vit partout dans le monde. Avant, c'était que les pays tropicaux qui connaissaient ces cyclones. Aujourd'hui, c'est l'Europe occidentale. Donc, la population comprend ce que c'est qu'un cyclone, une tempête, l'effet de serre, mais quand on lui parle de puits de carbone, évidemment, personne ne comprend ce que c'est. Pour un être normalement constitué, un puits de carbone, c'est une mine de charbon à l'extrême. Bon, donc je crois que c'est très impropre. Par contre, dire que la reforestation, par l'effet que nous connaissons tous de la séquestration du carbone, de l'oxygène pour créer du bois, les gens commencent à comprendre un petit peu ce que c'est que ce phénomène-là. Mais quand on leur parle de puits de carbone, c'est clair qu'ils ne comprennent pas, et c'est logique. Une forêt, pour eux, c'est pas un puits de carbone. Une forêt, c'est une série d'arbres qui sont là, qui sont beaux, qui poussent, et c'est agréable de s'y promener.
Et là, il n'y a pas d'effort de communication à faire?
Ah si, sûrement. Donc, qu'il faille faire un effort de communication, à mon avis, plutôt sur l'explication de la reforestation, du rôle de la forêt dans le refroidissement de la planète et par là de la lutte contre les dérèglements climatiques, ça c'est sûr qu'il faut en faire beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il faille investir beaucoup en communication pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un puits de carbone. Un puits de carbone, c'est une forêt. C'est une forêt en développement, point très, c'est tout.
Tout le monde ou presque comprend la corrélation entre les changements climatiques et l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Mais comment réduire cette concentration de CO2? Petit rappel, comme les animaux, les plantes respirent en absorbant de l'oxygène et en rejetant du gaz carbonique. la moitié du CO2 absorbé est donc stocké, voire séquestré. ProNatura, une association de solidarité franco-brésilienne spécialisée dans la protection des forêts tropicales, est à l'origine d'un projet de puits de carbone au Brésil. Explication avec son président Guy Reynaud.
Une équipe de ProNatura ainsi que le directeur technique de l'Office national des forêts travaillons depuis 5 ans sur le sujet. Donc on a fait des études, des travaux et on a conçu un projet, on a fait un budget on a cherché à trouver un sponsor. Donc l'Office national des forêts s'est chargé d'approcher Renault et moi-même, ProNatura, on s'est partagé le travail et j'ai approché Peugeot. Et il se trouve que Peugeot a pris sa décision plus rapidement que Renault. Renault a regretté par la suite ne pas avoir accepté, puisqu'il voulait faire, il voulait bien faire une opération comme ça. Mais en fait, c'est dès que le nouveau président de Peugeot, Jean-Martin Folz, est arrivé et a pris son poste. Comme c'était un ancien du ministère de l'Environnement, il a tout de suite compris l'intérêt, il a tout de suite compris l'opportunité et la décision a été facile à obtenir de la part de Peugeot. On était prêt, si Peugeot avait dit non, on était prêt à aller voir Lafarge, à aller voir des entreprises d'énergie, puisqu'il n'y a pas que les entreprises automobiles. Hein, parce que tous les producteurs d'énergie, par exemple, dégagent beaucoup de gaz carbonique. Et donc, à terme, devront s'engager à absorber une partie de leurs émissions par des puits de carbone.
Les entreprises se convertissent de plus en plus à l'écologie et veulent investir dans la protection des forêts. C'est normal. Il est désormais plus rentable, avec l'apparition prochaine du marché des puits de carbone, de laisser se développer une forêt que de couper les arbres. Guy Reynaud.
Il y a déjà une des plus grandes entreprises mondiales, en tout cas une des toutes premières entreprises européennes, qui va s'engager avec nous à fixer tout le CO2 qu'elle dégagera. C'est-à-dire qu'elle va faire le maximum d'économies d'énergie puisque c'est son intérêt. Et elle le fait, et elle a un programme. Mais au-delà de toutes les économies d'énergie qu'on peut faire, il reste toujours une consommation énergétique, donc des dégagements de CO2 quand il ne s'agit pas d'énergie nucléaire. Et eux s'engagent à fixer tout le CO2 à échelle de 10 ans. C'est-à-dire, ils disent en 2010, il faudra que l'Europe ait baissé ses émissions de 5% par rapport à 1990. Nous, on aura baissé de 100%. Donc, ils transforment les 5% en 100%.
Et ils savent déjà où est-ce qu'ils vont reforester?
Oui, oui, nous, on sait. Mais je suis désolé, mais il y a encore une confidentialité pendant quelques semaines. La seule façon de fixer que l'on connaisse, c'est reforester. Et c'est sous les tropiques que la reforestation est le plus efficace.
Pourquoi ?
Elle est plus efficace parce que pour deux raisons. Il y a une raison qui est le fait que les arbres poussent plus vite et plus grands, et que par hectare, il y a une quantité de biomasse plus rapidement qui pousse plus rapidement. Et en phase de forêt mature, il y a deux fois plus, grosso modo, de carbone par hectare. Et on obtient deux fois plus vite.
Dans le cas du projet mis sur pied par l'entreprise Peugeot, l'ONF, l'Office national des forêts, prend en charge les aspects techniques de la reforestation. Et l'ONF connaît bien le sujet. Bernard Goury, directeur général.
Nous, ce que nous faisons, c'est d'abord, on a fait de l'expérimentation. On est un des premiers établissements à avoir fait dans le monde des vraies expérimentations, grandeur nature, de reforestation dans des climats que nous connaissons mal, comme les climats tropicaux équatoriaux. Bon, premier point. Deuxièmement, nous avons, en tant que gestionnaire des forêts de l'État, nous avons la responsabilité de la gestion des forêts de la Réunion, de la Guyane, ça fait des siècles que l'État français, sous Louis XIV, on a commencé à gérer ces domaines forestiers. Et ça produisait des arbres. Et ces arbres, on les vendait pour faire du bois et de la construction. Donc on a, depuis des dizaines et des centaines d'années, une expérience, des outils de formation. Nous formons localement, en Guyane, à La Réunion, on forme à la fois des gens de Madagascar à la gestion forestière durable,
que l'on amène à La Réunion, on leur montre ce qu'on fait, et ils repartent sur Madagascar pour gérer eux-mêmes leurs propres forêts. On fait la même chose en Guyane, et maintenant on développe ce savoir-faire sur la base d'enseignements. Il y a des techniques, ces techniques font l'objet de documents, ces documents, on peut les laisser à des forestiers étrangers pour qu'ils prennent connaissance de cela et qu'ils adaptent cette connaissance à la gestion de leurs forêts, que ce soit en Colombie, au Chili, en Argentine ou au Brésil.
Peugeot, et c'est une première, s'est donc lancé dans cette aventure à titre expérimental en octobre 98. Objectif, 5000 hectares de forêt qui vont absorber 50 000 tonnes de carbone par an sur une durée de 40 ans. Au micro, Marc Boquet, qui dirige à la fois le département communication, innovation et environnement. Marc Boquet.
Nous avons décidé de développer notre propre puits de carbone en Amazonie avec l'objectif simple et modeste de faire une démonstration de faisabilité. Nous n'avons pas d'autres ambitions. Il s'agit de réintroduire plusieurs millions d'arbres sur près de 5000 hectares de terres déforestées au sein d'un écosystème qui lui-même fait 12000 hectares préexistants. L'objectif donc de ce dispositif est d'absorber plusieurs centaines de milliers de tonnes de carbone tout au long de la vie de ce dispositif par la photosynthèse. C'est donc quelque chose de radicalement nouveau et innovant dans lequel Peugeot s'est lancé.
Commentaire de l'un de ses initiateurs du projet de puits de carbone de Peugeot, le président de ProNatura, Guy Reynaud.
C'est très astucieux parce qu'on utilise des terres qui sont dégradées, qui ne servent plus à rien, qui ont été utilisées dans le passé pendant quelques années pour faire pâturer des bovins. Et comme c'est des terres très fragiles sous ces latitudes, les bovins ont épuisé les sols et plus rien ne pousse. Donc on utilise des terres impropres à l'agriculture pour régénérer une forêt qui ressemblera à terme étrangement à la forêt existante, puisqu'il s'agit d'essences d'arbres qui viennent de la région. Des massifs forestiers qui sont voisins des fermes qu'on reforeste. Donc c'est une façon d'utiliser intelligemment des terres qui ne servent à rien.
Le projet se situe donc dans l'état du Mato Grosso, dans les environs d'une ville qui s'appelle le Juruena. Il se développe donc sur une surface globale de 12 000 hectares. Nous allons réintroduire plusieurs millions d'arbres. Au cours de la première saison pleine de plantation, nous avons réintroduit 800 000 arbres avec un taux de réussite à l'issue de la saison des pluies de 75%. Taux de réussite dont nous sommes extrêmement contents compte tenu des conditions spécifiques du projet. Au cours de ces 18 premiers mois d'activité, est également implantée, réalisée ex nihilo, une pépinière qui est une des plus importantes pépinières d'arbres tropicaux dans le monde, qui a une surface développée de 3 hectares et qui peut accueillir à chaque saison environ 1 million de plants. Sur les 800 000 plants que nous avons plantés au cours de cette première saison, nous avons planté près de 30 espèces natives de la forêt amazonienne et du biotope local de Juruena, ce qui est également contribue à une réintroduction ou en tout cas une tentative de réintroduction de la biodiversité qui est un élément complémentaire à l'objectif d'absorption de dioxyde de carbone. Oui, alors ce projet est entièrement financé par le groupe Peugeot à hauteur de 65 millions de francs français. C'est également un projet qui est prévu pour une durée de 40 ans. Il n'y a à ma connaissance aucune entreprise multinationale dans le monde qui se soit engagée dans un projet écologique de cette envergure sur une telle durée. C'est également un projet qui apporte bien sûr au plan local de l'emploi, puisque au plus fort de la première saison de plantation, près de 80 personnes, ingénieurs agronomes et forestiers, ouvriers, planteurs ont participé donc aux travaux.
<t'-> Pour Sophie Corbillet, chargée d'études à l'Association française d'information sur les entreprises, le CFIE, le projet présenté ici par Marc Boquet n'a pas été aussi bien accueilli que cela. Et Peugeot a découvert, à sa grande surprise d'ailleurs, des accusations anti-écologiques qui ont été formulées. Sophie Corbillet.
C'est assez complexe d'étudier ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a des problèmes effectivement de corruption, de pression des syndicats. Et en plus de ça, le désherbage a été utilisé sans autorisation de l'agence qui s'occupe de l'environnement au Brésil. Alors ensuite, oui, c'est intéressant comme projet, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un projet à long terme. Donc dans 40 ans, il faudra voir ce qu'on fait de toutes ces forêts qui risquent non plus de capter du carbone, mais peut-être d'en émettre, hein. Puisque les arbres commenceront à vieillir. Et ensuite, je pense que vraiment le défi pour les sociétés automobiles, c'est plutôt de travailler sur les voitures qui sont la source des émissions de carbone. Au-delà de ça aussi, faut faire attention, enfin, faut vraiment suivre comment cette opération va être utilisée, parce que un des risques, c'est que Peugeot l'utilise en le comptabilisant dans ses réductions de carbone, même si la direction s'en défend.
Précision du directeur de la communication de chez Peugeot, Marc Boquet.
Peugeot fait un projet à la fois de démonstration, de faisabilité, d'image et ne compte évidemment recevoir aucune contrepartie financière de ce projet.
Il y a des raisons de penser que le puits de carbone de la forêt amazonienne va faire tache d'huile. L'état des forêts dans le monde y est pour quelque chose. Explication avec Guy Reynaud de l'association Pro Natura.
Alors, il y a environ 300 millions d'hectares, c'est un ordre de grandeur, de terres impropres à l'agriculture qui sont disponibles pour de la réforestation dans le genre du puits de carbone Peugeot. Pour vous donner une idée, la France, c'est 50 millions d'hectares. Donc c'est 7-8 fois la France. À l'heure actuelle, il y a 20 à 25% des émissions de gaz carbonique à l'échelle de la planète, la totalité, qui proviennent de la destruction de la forêt tropicale. Et la forêt tropicale est détruite en grande partie pour conquérir des nouvelles terres pour l'agriculture. Et très souvent, ces nouvelles terres sont exploitées de façon non durable. Et au bout de 3, 4, 5 ans, le sol est épuisé et évidemment, il faut pousser la frontière plus loin. Et c'est un processus qui a commencé à grande échelle il y a 30 ou 40 ans, puisque la moitié des forêts tropicales ont disparu dans cette période. Donc c'est le premier facteur unitaire, disons, de dégagement de CO2. On oublie, on dit tous, c'est nous, les industriels, les trucs, les ça. Mais la déforestation tropicale, c'est presque un quart des émissions totales. Dans un délai de 10 ans. Si les puits de carbone sont normalisés, sont acceptés et si la communauté internationale fait ce qu'il faut pour que tous les puits de carbone soient des bons puits de carbone comme celui de Peugeot, il y a une possibilité qu'il y ait autant d'argent, si ce n'est plus, pour financer les puits de carbone que tout l'argent, tous les budgets de coopération provenant de sources nationales ou d'organismes internationaux. Donc c'est une opportunité formidable pour ces régions du monde.
Est-ce qu'il y en aurait des mauvais alors ?
Oui, bien sûr, on peut imaginer le pire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un assez grand nombre d'associations crient et pour éviter qu'on laisse faire des puits de carbone dits mauvais. Et je suis d'accord avec eux, il ne faut pas de mauvais puits de carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais puits de carbone ? C'est simplement une reforestation massive avec des arbres, par exemple des eucalyptus, qui ont disons, qui sont très mauvais pour l'environnement, puisqu'aucun animal ne peut survivre dans une forêt d'eucalyptus. Et en plus, quand on fait des plantations monospécifiques à grande échelle, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, il y a des maladies, il y a des incendies, et que ce stockage de carbone n'est pas durable. Donc, et le pire, c'est que tout le monde s'attend, évidemment, si on laisse faire, qu'il y ait des OGM, des OGM d'arbres, donc des arbres manipulés génétiquement, qui auraient des performances encore meilleures, qui pousseraient encore plus vite, mais qui seraient encore beaucoup plus fragiles vis-à-vis des attaques de maladies ou d'insectes. Et donc, les puits de carbone pourraient partir en fumée très, très rapidement. Et donc, il y a beaucoup de manifestations qui se mettent en place en ce moment à La Haye pendant les négociations pour éviter que les puits de carbone soient acceptés sans contrôle. Donc, il faut vendre l'idée que les bons puits de carbone sont une façon de créer un cercle vertueux d'amélioration de l'environnement et de développement durable pour les populations rurales sous les tropiques.
Dans le cadre des négociations sur le climat, il faudra tenir compte de la forêt en tant que puits de carbone potentiel pour une durée limitée, tout en sachant les limites de cette option pour réduire l'effet de serre. C'est en tout cas l'opinion de Bernard Goury, le directeur général de l'Office national des forêts.
Moi, ce que je regretterais, c'est qu'on ne tienne pas compte de la forêt et du rôle que la forêt peut jouer dans cette lutte contre l'effet de serre. Maintenant, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que il faut le faire de manière contrôlée en termes scientifiques, il faut le faire de manière contrôlée en termes de gestion durable forestière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des forêts, des champs d'arbres sous prétexte de lutte contre l'effet de serre, et qu'on ne peut pas non plus entériner comme étant un élément de lutte contre l'effet de serre les forêts existantes. Parce que ces forêts existantes, elles ont déjà fixé, donc elles ont participé. Il faut repartir sur une base, à mon avis, relativement claire, transparente et saine. Et le seul moyen aujourd'hui de le faire, c'est en effet d'intégrer la forêt uniquement pour le rôle qu'elle est capable de jouer. Elle n'est qu'un complément dans un dispositif beaucoup plus complet qui doit être un mécanisme de lutte contre la pollution, d'écotaxes qu'il faut sans doute mettre en place, de rôle de reconnaissance du rôle de l'eau et des océans dans la lutte contre l'effet de serre, et ne pas prendre la forêt comme la panacée universelle. Ce serait tromper les gens que de leur raconter qu'on refroidira la planète en replantant des arbres. Seul, ça ne servira à rien.
N'oublions pas que les pays en développement auront besoin de ces réserves forestières pour leur propre développement dans les 20 années à venir, et pas seulement pour aider les entreprises du Nord à se faire pardonner leur pollution. Reste à savoir aussi si on peut faire du développement durable avec des méthodes empruntées à l'économie de marché, dont le marché des puits de carbone. C'était Fréquence Terre, le magazine de l'environnement. Une émission de Ben Kramer avec à la réalisation Marc Delouvrier, au mixage Joël Pochon. À la semaine prochaine.
Voilà, reportage produit par Radio France Internationale en décembre 2000. Depuis, il faut le noter, les politiques de reforestation se multiplient dans le monde suite à de nombreux engagements internationaux. Mais à contrario, la déforestation se poursuit, elle aussi. Et à Belém, les peuples indigènes sont venus s'en plaindre et exiger que soit tenu l'engagement de zéro déforestation d'ici 2030. Pourtant, On sent bien, à l'échelle locale, que le problème est parfois pris en compte. Prenons la ville de Nantes, par exemple, et son projet d'implantation d'une nouvelle ligne de busway, la 8. La municipalité s'est engagée à planter 629 arbres sur les espaces publics aux abords du tracé de cette nouvelle ligne. Et d'une manière plus générale, la ville s'est beaucoup végétalisée ces dernières années. Une goutte dans l'océan, me direz-vous, certes, mais la preuve que les autorités politiques ont parfois conscience des nécessités environnementales et adaptent leur politique d'aménagement dans ce sens. La semaine prochaine, clôture de la COP 30 de Belém, on en reparlera. Pour l'instant, c'est la fin de cette émission que vous retrouvez ainsi que toutes les précédentes sur notre site alternantefm.fr. Une chanson pour finir, c'est la coutume. Et puisqu'on parle des arbres, retrouvons celui de Georges Brassens, repris par Renaud. Auprès de mon arbre.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo.
À la semaine prochaine.
Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. Qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher là. Nouvelle compagne, Valence celle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ourse. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.